quand on parle de sport, eh bien, c'est avec vous, en règle générale, mon cher Samuel Cujas. Rebonjour.
Bonjour.
Et on va commencer par du basket et avec l'Euroleague. Et vous nous en aviez parlé. Et pour le moment, on dirait que vous n'avez pas tout à fait tort. Vous avez dit que le Maccabi Tel Aviv pourrait être la surprise de cette Euroleague. Et en quart de finale de la compétition, le Maccabi Tel Aviv est opposé à l'Association sportive de Monaco. La série se joue au meilleur des 5 matchs et après 3 rencontres, eh bien, c'est quand même le club de la principauté qui mène.
Oui Didier, pourtant la série avait plutôt bien débuté pour les joueurs israéliens puisque lors de la première rencontre qui a été disputée mardi dernier à Monaco, les joueurs de la légende du basket israélien Oded Katash s'étaient imposés de 12 points sur le parquet donc des Monégasques. Monaco avait rétabli l'équilibre en s'imposant toujours sur son parquet jeudi dernier, lors du match 2, là aussi, par 12 points d'écart. Alors après ces deux matchs à Monaco, les joueurs devaient se retrouver cette semaine à Tel Aviv pour y disputer 2 rencontres, avant éventuellement de disputer un ultime match. Cette fois-ci, ce serait à Monaco, puisque l'équipe princière a terminé la saison régulière devant les bleus et jaunes et donc bénéficie de ce qu'on appelle l'avantage du terrain, l'avantage du parquet pour l'éventuel match décisif. Alors mardi soir, chauffé par 11 000 spectateurs bouillants, la Menorah Miftachim Arena de Tel Aviv attendait de pied ferme les Monégasques. Les supporters du Maccabi étaient en force, étaient présents plus de 3 heures avant le coup d'envoi. Ils ont accueilli chaque joueur de l'équipe arrivé en voiture jusqu'à l'arène avec des chants, des danses. Par contre, lorsque le but de Monaco est arrivé, les airs joyeux se sont rapidement transformés en huées. Des centaines de supporters se sont bien sûr assurés de dire aux visiteurs exactement ce qu'ils pensaient d'eux et de leur arrivée. Des fusées éclairantes de toutes les couleurs ont été lancées. Ça a stoppé net le bus alors que la fumée s'échappait de la rue. Alors lors des échauffements d'avant-match, là aussi, le public était bouillant. Hein, une pluie de confettis s'est abattue sur les joueurs monégasques. Tandis que quelques minutes plus tard, le Maccabi, emmené par son capitaine John Di Bartolomeo, entrait dans l'arène avec un accueil là de héros, les fans acclamant chaque joueur un par un, et en espérant bien sûr que tout allait bien se passer. Mais malheureusement pour le Maccabi, tout cela n'aura pas suffi puisque les Israéliens se sont inclinés 83-78 face à un adversaire qui a très bien entamé la rencontre et n'a jamais permis au Maccabi de le mettre en danger. Alors les hommes d'Oded Katash sont désormais au pied du mur puisqu'ils sont menés 2-1 et que pour espérer se qualifier pour le Final Four qui se déroulera à Kaunas en Lituanie, les Israéliens devront commencer par s'imposer dès ce soir. C'est le message qu'a voulu faire passer dès la fin du match l'entraîneur du Maccabi, Oded Katash, qui a loué la qualité de son adversaire, qui a remercié les fans pour leur soutien inconditionnel et leur a assuré que le Maccabi ferait le job lors du match 4 de la série, ce soir donc à partir de 20h30. Sachez qu'en cas de victoire israélienne, les deux équipes seront donc à égalité de victoires partout et elles se retrouveront alors en principauté monégasque en milieu de semaine prochaine, mardi ou mercredi, pour le match décisif.
Eh oui, on leur souhaite au Maccabi Tel Aviv bonne chance pour le coup. On reste en play-off, mais on change de sport. Eh oui, en foot et en foot belge, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée hier soir 0-2 face à l'Antwerp lors du deuxième match de la première journée du Playoff Champions.
Oui, le Playoff Champions, et on peut dire que c'est une surprise quand même, tant les unionistes sont habituellement difficiles à manœuvrer à domicile. Et puis ils avaient par ailleurs bénéficié de plus de temps de récupération que leurs adversaires, puisque les joueurs anversois avaient disputé la finale de la Coupe de Belgique le week-end dernier, un match qu'ils avaient remporté d'ailleurs 2-0 face à Malines. Mais c'est peut-être précisément le fait d'avoir disputé et remporté ce match qui les a galvanisés, puisqu'ils peuvent désormais rêver un improbable doublé coupe-championnat. Alors les unionistes ont très difficilement entamé la rencontre, sans réelle idée dans le jeu, à l'image de Teddy Thomas, qui est habituellement si facile et si inspiré, et qui on a difficilement reconnu tant il fut invisible hier. Les Anversois n'en demandaient pas tant et exploitaient toutes les erreurs des Saint-Gillois, et ouvrait d'ailleurs la marque par Ekelkamp dès la 20e minute. Sous l'impulsion de Lapoussin, qui était lui déchaîné, les jaunes et bleus essayaient de réagir, mais étaient punis 10 minutes plus tard seulement par Keita, qui donnait 2 buts d'avance à l'Antwerp à la pause. Alors décidés à revenir au score, les joueurs de Carole Gerrards revenaient des vestiaires armés d'un esprit bien plus offensif, mais ils ne parvenaient pas malheureusement à inquiéter leurs adversaires qui pouvaient également compter en cas de besoin sur leur gardien Jean Buté, meilleur gardien de but du championnat très certainement. Alors incapable de marquer, l'Union aurait pu d'ailleurs sombrer plus lourdement si son gardien, le luxembourgeois Anthony Maurice, n'avait pas lui aussi réalisé quelques parades importantes. Avec ce résultat, l'Antwerp est désormais deuxième, à 2 points seulement de Genk et 1 point devant son adversaire du soir. Prochain rendez-vous dès ce week-end. Samedi, le club de Bruges recevra l'Union Saint-Gilloise et dimanche, le choc opposera donc à Anvers, l'Antwerp à Genk. Les Limbourgeois pouvant prendre en cas de victoire au Bosuil Stadion une avance au classement qui pourrait se révéler décisive. Ils auraient alors 5 points d'avance. Les Anversois joueront eux pour entretenir le rêve de réaliser un doublé qui n'a plus été réalisé en Belgique, figurez-vous, depuis la saison 95-96.
Ah bien, dites-moi, bientôt 30 ans que ce doublé attend une équipe ouais. pour pouvoir s'inscrire dans les livres des records. Bien, et on va quand même revenir, on va rester dans le foot. Il y a eu un véritable petit séisme sur la planète foot pas plus tard qu'hier et qu'avant-hier. Ça se passe en France, ça se passe dans votre équipe de cœur, mon cher Samuel, au Paris Saint-Germain. Écoutez, puisque Lionel Messi a été mis à pied.
Eh oui.
C'est pas mal pour un footballeur d'être mis à pied.
Mis à pied. Les supporters du Paris Saint-Germain avaient l'habitude de dire « Paris est magique ». Là, Paris est presque plutôt tragique. Effectivement, pour expliquer, Lionel Messi ne s'est pas présenté à l'entraînement lundi. Et au lieu de ça, il était en train d'assurer une opération commerciale en Arabie Saoudite. Une opération, puisqu'il est lié depuis 2 ans, à l'Office du tourisme saoudien. Alors, c'est une opération commerciale qui devait avoir lieu par le passé, qui avait été remise 2 fois de suite. Et pour cause, au Paris Saint-Germain, la règle, si on veut, c'est que lorsque l'équipe perd un week-end, eh bien, elle n'a pas le droit à 2 jours de congé. Et donc, par 2 fois, il avait dû se présenter à l'entraînement et annuler son voyage. Et là, eh bien, l'équipe a perdu 1-3 dimanche face à Lorient. Et malgré le fait que le rendez-vous était donné le lendemain, lundi matin, même un 1er mai, au camp des loges pour s'entraîner, eh bien, Messi ne s'est pas présenté. Et il était en Arabie Saoudite. Alors visiblement, ça a un petit peu agacé certains joueurs, notamment. Et le Paris Saint-Germain a donc pris la décision de mettre à pied le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire. Tout cela est d'un ridicule assez fort. Le Paris Saint-Germain qui a laissé le club aller un peu à volo, sans aucune discipline depuis plusieurs années, notamment cette année. Neymar pouvant faire à peu près ce qu'il veut. En revanche, lorsqu'il a fallu faire quelque chose et montrer les muscles, ils l'ont fait donc à l'occasion de cette absence de Messi. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Bien là, ça a été quand même beaucoup plus assez facile pour les Qataris du Paris Saint-Germain, puisque Lionel Messi ne va sans doute pas, de toute façon, n'aurait pas prolongé son contrat, et donc voilà une manière pour les dirigeants parisiens de s'en débarrasser sans subir peut-être un affront que Messi refuse de prolonger. Alors tout cela dans une équipe qui produit un football désastreux depuis le début de l'année.
Enfin, entendons-nous, désastreux par rapport à ce qu'ils pourraient produire au regard des joueurs qui sont alignés, évidemment.
C'est ça. Mais ils ont quand même un bilan de 4 défaites sur les 7 derniers matchs. Malgré tout, ils conservent une avance en championnat. Et tout ça fait que les supporters du Paris Saint-Germain étaient bien remontés. Et hier, eh bien, on a eu droit à des centaines de supporters du Paris Saint-Germain massés devant le siège du club à réclamer le départ de Neymar, le départ de Messi, le départ du président et de tous les joueurs, de pas mal de joueurs emblématiques. Tout cela dans un club qui n'a visiblement aucune stratégie à long terme et qui préfère empiler les stars. Eh bien voilà ce qu'il arrive quand on n'a pas une ligne directrice et qu'on oublie qu'un club de football, ce ne sont pas seulement 3 attaquants, mais que c'est au minimum 11 joueurs qui forment une équipe.
Oui, et puis en même temps, il faut saluer quand même je dirais la vraie performance d'un certain Florentino Pérez, qui à l'époque, c'est lui qui a commencé à mettre des dollars et des dollars pour avoir les Galactiques, comme on les appelait au Real Madrid. Mais lui, en revanche, il a obtenu plein de Coupes d'Europe et plein de bons résultats, ce que les Qataris ne sont pas encore parvenus à faire, notamment en Europe.
Ce qu'ils ne parviendront pas à faire.
Ben oui. Bien, mais c'est un peu déplorable, effectivement, que le meilleur joueur du monde soit sifflé, hué et insulté, surtout, par en plus des aficionados de l'équipe. Voilà, vous vous apprêtez, je dirais, un intersaison assez tumultueux du côté, suppose, de, je vais aller dire la Porte d'Auteuil, mais c'est pas ça.
C'est la Porte d'Auteuil. Porte de Saint-Cloud, mais vous savez, pour les supporters du Paris Saint-Germain, les meilleurs moments de la saison, c'est l'intersaison. On perd pas et on peut juste espérer. Donc voilà, c'est le meilleur moment.
Bien. Ben après Messi, Neymar, Achraf Hakimi notamment, on se demande qui vont faire venir pour écoper un petit peu le bateau pour qu'il reste à flot. Hein. Je vois pas du tout ce qu'on pourrait aller chercher. Peut-être Ronaldo. Hein,
Zidane peut-être, mais pour jouer puisqu'ils ont l'habitude d'acheter des joueurs âgés.
Ben, voilà. Bien. Merci beaucoup,
Eden Hazard peut-être.
Eden Hazard, pourquoi pas. Mais enfin lui, il est pas si vieux que ça, en définitive. Merci pour ces infos et merci aussi pour ce coup de gueule qui vous honore puisque vous êtes un supporter invétéré du club parisien, mais ça n'empêche que vous pouvez garder toute votre lucidité.